VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Ce vendredi 26 janvier 2018 au sommaire. Le président Donald Trump vante les performances économiques des États-Unis au Forum économique mondial de Davos. Il rassure que l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique toute seule. Au Niger, 9 militaires et un civil condamnés par un tribunal militaire nigérien de 5 à 15 ans de prison pour tentative de déstabilisation du pouvoir. Le sommet de l'Union africaine se tient ce week-end sur fond de réformes dans le financement de l'organisation. Le président congolais Joseph Kabila accuse l'opposition de proposer un saut dans l'inconnu. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Le Forum économique mondial a pris fin ce vendredi à Davos en Suisse. Le président Donald Trump a livré un discours visant à rassurer les partenaires diplomatiques et commerciaux des États-Unis. En marge du Forum, il s'est entretenu avec son homologue rwandais. Le point avec Morgan Guériec.
À l'occasion de cette grand-messe du capitalisme et du libre-échange, Donald Trump, champion du protectionnisme américain, a tenu à rassurer les partenaires des États-Unis.
As president of the United States, I will always put America.
En tant que président des États-Unis, je mettrai toujours l'Amérique au premier plan, tout comme les dirigeants des autres pays devraient mettre leur pays en premier.
But America first.
Mais l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique, mais le monde entier.
When the United States grows, so does the world.
Monsieur Trump a insisté sur le fait que les accords de libre-échange devaient être équitables et réciproques.
United States will no longer turn a blind eye.
Les États-Unis ne fermeront plus les yeux sur les pratiques économiques déloyales, notamment le vol massif de propriétés intellectuelles, les subventions industrielles et la planification économique généralisée dirigée par l'État qui fausse les marchés mondiaux, nuisent aux entreprises et aux travailleurs aux États-Unis et dans le monde entier.
And harming businesses and workers not just in the US but around the globe.
Donald Trump a également défendu sa réforme fiscale en affirmant qu'en réduisant les taxes, il encourageait un environnement favorable aux affaires. Les avantages et les désavantages de cette réforme avec Jean-François Seznec, économiste à la Johns Hopkins University.
C'est une réforme qui est assez intéressante pour les grandes compagnies américaines. Elles vont pouvoir rapatrier des fonds qui sont en ce moment gardés à l'étranger avec simplement 15% de taxes au lieu de 35% comme c'était avant. Donc Apple vient de décider de le rapatrier, un peu plus de 300 milliards de dollars qui vont être investis aux États-Unis mais qui vont leur coûter tout 30 ou 40 milliards de dollars de taxes. Un avantage pour les États-Unis, ça va créer beaucoup d'investissements industriels ici et beaucoup de compagnies vont faire la même chose. Alors bien sûr, qui est-ce qui va payer pour tout ça? Parce que le déficit budgétaire des États-Unis va augmenter, la dette fondamentale des États-Unis va augmenter de 1 trillion de dollars et demi. Alors Trump a vendu ça à la classe moyenne en disant vous allez avoir un petit avantage fiscal pour le moment et c'est vrai, pendant 2 ans il va y avoir un avantage fiscal pour les classes moyennes. Le problème c'est que plus tard ces avantages vont être annulés et finalement qui va payer? On ne sait pas encore.
En marge de ce forum, Donald Trump a rencontré son homologue rwandais avec qui il a eu des échanges chaleureux. Le chef de l'exécutif américain a qualifié de formidable ses discussions avec Paul Kagame et fait l'éloge du partenariat entre les États-Unis et le Rwanda.
Nous commerçons avec le Rwanda et en général, je dirais que nos relations sont excellentes.
Paul Kagame a répondu sur le même ton en insistant sur le soutien qu'apportent les États-Unis à son pays.
Le Rwanda a énormément bénéficié de l'appui des États-Unis. Vous avez soutenu notre économie avec le commerce et l'investissement. Nous voyons beaucoup de touristes des États-Unis venir au Rwanda.
Donald Trump a enfin profité pour envoyer ses salutations les plus chaleureuses aux autres dirigeants africains qui doivent tenir à partir de dimanche le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba.
Merci Morgan. En effet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réuniront en sommet les 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne pour débattre de plusieurs sujets qui concernent l'organisation panafricaine à leur tête, la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. Salwa Diafari.
première séance photo des participants au sommet de l'Union africaine ce vendredi, à l'heure où d'autres chefs d'État et dignitaires continuent d'affluer vers Addis Abeba. Antonio Guterres, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon et autres sont attendus aujourd'hui. Vaincre la corruption, une option durable de transformation de l'Afrique est le thème retenu pour ce sommet dont les sessions ministérielles ont débuté jeudi. Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité auprès de l'Union africaine.
Je pense que le thème est très important car nous considérons la corruption comme l'un des déclencheurs des conflits dans l'ensemble. Il s'agit de gouvernance politique.
Les dirigeants africains devront également discuter des moyens de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment sécuritaires et économiques, afin de réaliser les objectifs de paix et développement inscrits dans l'agenda 2063. Les crises et conflits qui secouent le continent seront également à l'ordre du jour, comme le chaos en Libye et en Centrafrique, les groupes djihadistes dans certaines parties du Sahel, les tensions en République démocratique du Congo et au Cameroun.
Au Niger, 9 militaires et un civil ont été condamnés vendredi par un tribunal militaire de 5 à 15 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime en 2015. Le point avec Abdulrazak Idrissa.
Le tribunal militaire a reconnu le général Salou Souleymane coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 15 ans d'emprisonnement ferme. Deux autres militaires, dont le lieutenant Ousmane Awal Ambali, écopent de la même peine. Trois autres officiers, eux, sont condamnés à 10 ans de prison. Le fils du général Salou Souleymane et deux autres militaires, eux, ont été condamnés à 5 années d'emprisonnement. Le commandant de la base aérienne de Niamey, qui avait, selon l'accusation, pour mission, si l'opération de 2015 devait se tenir, bombarder le palais présidentiel, le lieutenant-colonel Idi Abdou Danhawa a lui simplement et purement été acquitté par le tribunal faute de preuves suffisantes. Il en est de même pour le colonel Tahirou Zarma et un des gardes du général Salou. Selon le code de justice militaire, les condamnés n'ont pas de possibilité de recours. C'est donc l'épilogue d'un procès de 4 jours qui s'est tenu après plus de 2 années de privation de liberté pour les accusés, l'affaire remontant à décembre 2015 où le président Issoufou Mahamadou annonçait dans un message qu'une tentative de renversement de son régime avait été déjouée par les services de renseignement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président congolais Joseph Kabila accuse l'opposition de proposer un saut dans l'inconnu sur le processus électoral. Dans sa première conférence de presse depuis 2012, le président a ajouté qu'il souhaitait clarifier les relations avec les Nations Unies. Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
S'exprimant pour la première fois en conférence de presse depuis plusieurs années, Joseph Kabila a commencé par rappeler le contexte dans lequel, il y a 17 ans jour pour jour, il avait pris le pouvoir. Pays divisé par la guerre et surendetté, la République démocratique du Congo était en crise, a-t-il dit. Ma plus grande réussite a été la réunification du pays. Il s'est ensuite félicité du vote de l'actuelle constitution actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. J'ai battu campagne seul pour cette constitution alors que beaucoup qui y étaient opposés et l'avaient combattu la défendent aujourd'hui. Joseph Kabila a par ailleurs rappelé que les deux élections en 2006 comme en 2011 ont été émaillées de tensions, accusant l'Église catholique d'être à chaque fois du côté de ceux qui en ont contesté les résultats. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on veut tout mélanger, le résultat n'est pas toujours bon, précise-t-il. Pour les prochaines élections autofinancées par le gouvernement, mon souci est que la cohésion et la paix règnent même après la publication des résultats, a dit Joseph Kabila. Serez-vous candidat à la présidentielle de 2018 ? Lui demande alors une journaliste. Le président Kabila répond avec une dose d'ironie : veuillez remettre une copie de la Constitution à ma petite sœur journaliste pour qu'il la lise. Et à une autre question sur le référendum pour lui permettre de briguer un troisième mandat, le président Kabila a répondu : la CENI a publié un calendrier, je n'ai vu nulle part le référendum. Concernant la repression des dernières manifestations politiques, Joseph Kabila s'est dit favorable au manifestations pacifiques et politiques, mais dans le respect et l'ordre. Je déplore les morts et vous annonce que le policier qui a tiré sur un manifestant a été arrêté. Mais il faut également que les manifestants se conforment à la loi, précise le président de la République. Enfin, Joseph Kabila a critiqué la MONUSCO qui, selon ses termes, n'a éradiqué aucun groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo et a à plusieurs reprises violé l'accord de siège de la SOFA. Concernant la Belgique et les relations diplomatiques tendues avec Kinshasa, Joseph Kabila souligne qu'il n'y a pas d'animosité avec la Belgique, qui doit tout de même comprendre, selon lui, que la République démocratique du Congo n'est plus une colonie. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La présidence du Burundi s'est félicitée d'une grande victoire diplomatique et économique après l'annonce par le marché commun de l'Afrique orientale et australe de l'organisation en avril prochain de son sommet des chefs d'État à Bujumbura. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, présentée par Dili Diko.
Au Maroc, le secteur de la plasturgie devrait générer 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 475 000 emplois en 2023, selon l'agence Ecofin. Les autorités marocaines et les opérateurs du secteur de la plasturgie ont présenté ce jeudi les grandes lignes permettant d'atteindre ces projections. Au Maroc, 650 entreprises font partie de l'industrie de la plasturgie qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 du pays. Au Burkina Faso, la fondation Bill et Melinda Gates va octroyer un don de 23 milliards de francs CFA pour appuyer le PNDES, le plan national de développement économique et social. Les autorités burkinabées ont précisé que ce don permettra de financer plusieurs projets dans le domaine de la nutrition et du planning familial. Le PNDES a pour objectif d'améliorer le niveau de vie des populations défavorisées au Burkina et rendre l'économie du pays plus compétitive d'ici 2020. Les prix des métaux de base ont grimpé 7 semaines après que la Maison-Blanche a donné le ton du marché en provoquant l'affaiblissement du dollar. Les prix de l'aluminium, du plomb, de l'étain, du nickel et le zinc ont augmenté sur la semaine, notamment à cause des annonces d'investissement faites par Donald Trump. Son plan d'investissement pourrait potentiellement doper la demande de métaux de base sur les années à venir en raison du développement des infrastructures promis par le président.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
Et oui, on attend les quarts de finale qui commencent ce week-end dans le royaume chérifien. Samedi, Maroc-Namibie, c'est à Casablanca. Le pays organisateur qui veut remporter la compétition devant son public et qui devra se méfier du piège namibien. On fait le point au Maroc avec Amine Birouk pour VOA Afrique.
Sur le papier, le premier quart de finale du CHAN 2018 entre le Maroc et la Namibie semble déséquilibré. En effet, le pays organisateur a l'avantage de jouer devant son public et possède dans son effectif des joueurs rompus aux joutes continentales. De plus, les Lions de l'Atlas ont réalisé 2 sorties convaincantes devant la Mauritanie et la Guinée lors du premier tour. Néanmoins, les Brave Warriors sont une belle carte à jouer à Casablanca. Tout d'abord, les hommes de Manetti disposent d'une organisation de jeu très rigoureuse. Par ailleurs, leur état d'esprit est irréprochable. Enfin, lors de leur match du premier tour, ils ont montré de gros arguments. Résultat des courses, la Namibie a battu la Côte d'Ivoire et l'Ouganda et contraint au nul la Zambie. D'ailleurs, les joueurs espèrent poursuivre leur aventure jusqu'en demi-finale au moins, quitte à créer la sensation du tournoi en éliminant le favori numéro 1 du CHAN. Un favori qui a plus à perdre samedi qu'à gagner. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Merci Amine, et à suivre samedi également la Zambie face au Soudan à Marrakech. Dimanche, le Nigeria contre l'Angola à Tanger. Et puis enfin, à Agadir, toujours dimanche, le Congo-Brazzaville face à la Libye.
Le Gabon sorti de sa CAN de handball à Libreville.
Oui, l'équipe masculine du Gabon a été éliminée hier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Maroc, une défaite 23-26. Dans les autres quarts de finale, la Tunisie a battu la République démocratique du Congo, 38-21. L'Angola qui a dominé l'Algérie, 29-27. Et puis les Congolais de Brazzaville, battus par l'Égypte, 22-37. Les demi-finales, c'est ce vendredi, Tunisie-Angola et Maroc. Égypte.
Tennis Open d'Australie, Roger Federer en finale.
Ah oui, jamais inquiété par Chung Haeyeon, blessé au pied et contraint à l'abandon dans le deuxième set ce vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie. Roger Federer va défendre son titre face à Marin Cilic. Il n'est plus qu'à une victoire d'un 20e Grand Chelem.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Ah oui, les Golden State Warriors ont battu hier soir Minnesota 126-113. Les Warriors qui ont battu également leur record de panier à 3 points inscrit sur un match cette saison, à savoir 21 paniers à 3 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le gouvernement burundais a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020 où le président Pierre Nkurunziza est autorisé à briguer un nouveau mandat de 7 ans si le référendum sur la constitution est accepté par les Burundais. L'opposition dénonce un vol organisé contraire à la constitution qui ne parle de solidarité nationale qu'en cas de catastrophe. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Les ministres de l'Intérieur, ceux des Finances et de la Fonction publique ont rencontré les plus de 35 syndicats des travailleurs et l'Association des employeurs du Burundi pour trouver une issue à la contribution des fonctionnaires et des habitants du Burundi pour les élections de 2020. Le gouvernement burundais indique que ces contributions devaient être volontaires, mais les syndicats voient déjà dans l'ordonnance qui est sortie sur les montants du pourcentage du salaire fixe des citoyens une contribution forcée. Le représentant des travailleurs, qui était d'ailleurs présent à la rencontre, affirme que les cotisations des employés qui se font sans leur consentement peuvent avoir des retombées négatives chez les employeurs. Mais pour Tarsis Gaungu, représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, le début du dialogue social avec tous les partenaires peut aboutir à des décisions consensuelles.
Je crois que le retour n'a pas encore commencé. C'est vrai aussi que l'ordonnance ministérielle fixait les délais de commencement de ces cotisations. C'était 2018, donc nous sommes en janvier, nous approchons vers la fin du mois. Il est vrai aussi que on se trouve entre deux questions pertinentes. Le salaire qui est payé avec retard ou le salaire qui est payé avec les contributions non consensuelles. Je crois que nous, on devra trouver une solution. À mon avis, il faudrait que les travailleurs bénéficient de leur salaire en temps utile, donc juste à la fin du mois, et que les négociations vont continuer. Les ministres ont dit que la contribution était volontaire. Nous avons dit que nous voulons contribuer, mais que nous voulons contribuer à la mesure de nos moyens.
À la question de savoir quelle somme est nécessaire pour les élections de 2020, le ministre des Finances, Domitien Ndiokoubwaio, reconnaît que pour le moment, il ne connaît pas encore le montant total pour les prochaines élections.
En tant que gouvernement, nous ne voulons pas collecter un excédent de fonds. Nous voulons juste ce qu'il faut. Quant à la question de combien il nous faut, je vous dis directement qu'on n'a pas encore les estimations, mais nous y travaillons. Estimer les coûts des élections n'est pas chose simple.
Comme les fonctionnaires s'acheminent vers la fin du mois, il est difficile aujourd'hui de confirmer ou d'affirmer que le salaire du mois de janvier, date à laquelle débutent les contributions sur les salaires fixes, sera déduit du montant des contributions qui varient selon les salaires des fonctionnaires burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, l'armée a tué 8 djihadistes à Youarou et perdu 2 hommes lors d'une attaque contre un camp militaire. Elle a procédé ensuite à l'arrestation d'une 30aine de personnes. Par ailleurs, hier à Boni, toujours dans la région de Mopti, 26 civils ont perdu la vie dans l'explosion d'une mine. Près de 40 morts en 24 heures alors que plusieurs forces armées se bousculent au Mali pour combattre les djihadistes. Les réactions des Maliens avec notre correspondant Kassim Traoré.
De Diboli à Tenzawatem, de Labezanga à Eremakono, aucune région du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Gabriel Tchenou, journaliste.
La multiplication des actes de terrorisme au centre du pays défraie aujourd'hui la chronique. Certes, l'armée a commencé à ne plus reculer, à prendre ses responsabilités, mais ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que le temps que nous avons mis avant d'intervenir pour barrer la route à ces bandits armés a été suffisamment long. Toute une année, ils étaient à la plupart à la merci des groupes armés.
Les femmes, les casques bleus, les G5 Sahel ou encore la force Barkhane sont toutes au Mali et les soldats de toutes nationalités du monde. Mais ce sont les djihadistes à moto qui sèment la terreur. Kourotoumou Karaventa, étudiante.
Ces forces armées sont là tout simplement pour maquiller notre pays parce que réellement on ne voit pas de résultats. Ils circulent tous les jours dans les grosses voitures, dans nos populations, on ne voit pas de résultats. Il faudra bien que nos forces armées s'investissent davantage. Pourquoi ne pas se mettre en civil aussi comme ces bandits armés le font? On peut aussi lancer des appels aussi à la population à collaborer aussi avec nos forces armées.
Certains Maliens pensent que le Mali est victime d'un complot international, d'où l'immobilisme des force en présence. Moussa Famba, Malien vivant en Côte d'Ivoire.
Pour que les gars mettent terme à ces palabres-là, je ne crois pas. Tant que 10 ans n'est pas arrivé, et puis tant que les intérêts qu'ils enlèvent au nord, qui sont de l'or, des tris, tant que ça n'est fini pas, ils ne vont pas libérer le pays, ils ne vont pas nous libérer aussi. On ne fait qu'observer les Occidentaux. Et puisque nos autorités même, ils sont dans le trou, ils savent ce qui se passe au nord. Donc eux aussi, ils ont des bénéfices dedans.
Et pourtant, le Mali a signé un accord pour la paix qui tarde à se concrétiser sur le terrain. Avec des réunions interminable à Bamako, alors que les djihadistes progressent de jour en jour. Docteur Lamine Sandi Aïdara.
Vous ne pouvez pas prétendre nous accompagner et ne pas observer la neutralité. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes. Il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Il faut aussi reconnaître que l'État malien aussi est un grand acteur dans ce processus. Mais l'État
malgré cette situation d'insécurité généralisée, les autorités maliennes disent qu'elles vont organiser les élections générales. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La musique burkinabé a l'honneur ce week-end à Los Angeles. Les Grammy Awards, les prestigieuses récompenses de la musique américaine, ont sélectionné l'album burkinabé Bobo Yeye, Belle Époque en Haute Volta, qui a été nominé pour 2 Grammy Awards. Il s'agit d'une compilation d'enregistrements des années 70 dans la deuxième ville du pays, Bobo Dioulasso. Justement à Bobo, la nouvelle a surpris certains musiciens qui se demandent comment leurs œuvres se sont retrouvées sur une compilation. Bagasikura.
Bobo Yeye est une compilation de la musique des années 70 à Bobo Dioulasso. C'est le producteur français Florent Mazzolili qui a pris l'initiative de créer cette compilation de 3 CD.
Parce que c'est des artistes que j'admire depuis toujours et j'ai écrit une vingtaine de livres sur les musiques africaines, dont un livre en 2011 qui s'appelle Burkina Faso, musique moderne voltaïque. C'est là que j'ai rencontré à la fois le photographe Sori Sanlé et puis les derniers musiciens encore vivants de cette époque, les gens du Dafrastar et de Volta Jazz, de Bobo Dioulasso. Donc j'ai collecté des enregistrements, les cassettes, les disques, les photos. J'ai fait beaucoup d'interviews, j'avais beaucoup de matériel, donc j'ai proposé au label Numéro Groupe et ils m'ont répondu très rapidement et on a décidé de faire ce coffret qui est sorti en 2016.
Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un blanc qui a passé ici.
Stanislas Souré est l'un des musiciens du groupe Volta Jazz.
Il a essayé d'avoir des renseignements sur la vie des orchestres d'antan, comment les orchestres évoluaient, combien il y avait d'orchestres et puis la manière de jouer la musique, la composition des groupes et tout consort. Bon, pour nous, eh bien, c'était dans un cadre de faire au moins une historique de ce qu'on appelle la musique d'antan par rapport à la musique d'aujourd'hui. Mais quand on a parlé de faire une compilation et des trucs comme ça, on n'a jamais fait cas de ça. Jamais, jamais, jamais.
Stanislas Souré n'est pas seul. Nuhunu Traoré du groupe Echo de Africa s'est dit fier de savoir que sa musique a été nominée pour les Grammy Awards. Lui, il reconnaît toutefois avoir collaboré pour un livre sur la musique, mais pas pour une compilation.
Quand il est venu pour prendre mon nom, là, aller faire son livre-là,
C'est le livre, c'est pas le disque, ce qu'il m'avait dit. Mon fils a proposé qu'il n'a qu'à me donner quelque chose. Il m'a donné 200 000 francs ce jour-là. Bon, pour aller faire le livre. Mais pour ça, là, il m'a pas dit ça. Il a pris des bandes de notre patron, qui est Tanou Bassongolo. Mais c'était une bande pourrie, quoi. Il m'a dit qu'il va aller voir s'il peut récupérer ça. Il est passé, il n'est plus revenu. Il m'a pas appelé, il m'a rien dit après.
Donc, à me contacter à ce moment-là, moi, j'ai été rencontrer les artistes. J'ai fait des dizaines de voyages au Burkina Faso, au Bobo Dioulasso. J'ai rencontré les fondateurs du groupe, les gens qui avaient les contrats d'époque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne peux pas rencontrer tout le monde. Et puis évidemment, quand il y a un projet comme ça qui sort et puis qu'on en parle avec ce Grammy Award, ça attire l'intérêt de certaines personnes.
Cette nomination au Grammy Award devrait être la consécration de leur carrière. Mais à Bobo Dioulasso, les anciens, comme on les appelle, ont le sentiment d'avoir été volés.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La mise en onde de Sims Lumami, la console Cedric Franklin, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Lors d'un récent voyage au Moyen-Orient, le vice-président américain Mike Pence s'est rendu en Égypte, en Jordanie et en Israël. Dans un discours devant une session spéciale de la Knesset, le vice-président Pence a révélé qu'avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah de Jordanie, il a discuté de la remarquable transformation en cours à travers le Moyen-Orient et la nécessité d'ouvrir une nouvelle ère de coopération. On peut voir le vent du changement à l'œuvre à travers le Moyen-Orient, a dit le vice-président Pence. Les ennemis de longue date deviennent des partenaires, d'anciens adversaires trouvent de nouveaux terrains d'entente, et les descendants d'Isaac et d'Ismaël sont plus que jamais unis pour de causes communes. Lors du sommet arabo-islamique américain tenu l'année dernière en Arabie Saoudite, le vice-président a appelé les peuples de la région à collaborer plus étroitement, à reconnaître les opportunités et confronter les défis communs. Il a en outre noté que le président Trump a exhorté tous ceux qui vivent au Moyen-Orient à confronter le test le plus difficile de leur histoire, conquérir l'extrémisme et vaincre les forces du terrorisme. L'islam radical ne connaît pas de frontières, a dit le vice-président. Il ne respecte aucune foi, tuant les juifs, les chrétiens et particulièrement les musulmans. Avec leurs partenaires et alliés, les États-Unis continueront d'éliminer les terrorismes islamiques radicaux dans le monde. Grâce au courage des forces de sécurité partenaires, soutenues par les États-Unis et leurs alliés, le groupe État islamique est en débandade en ce moment même et son soi-disant califat s'est effondré. Comme le président Trump l'a clairement indiqué en Arabie Saoudite, les États-Unis continueront d'œuvrer avec tous leurs partenaires pour priver les terroristes de leur territoire, de leurs fonds et de la fausse apparence de leur lâche idéologie. Les États-Unis aideront également les personnes persécutées qui ont souffert énormément aux mains du groupe État islamique et d'autres organisations terroristes. Les États-Unis ont déjà alloué plus de 110 millions de dollars à l'aide aux minorités chrétiennes et autres à travers le Moyen-Orient. Ils exhortent leurs alliés en Israël, en Europe et à travers le monde à se joindre à cette cause. Œuvrons ensemble pour restaurer la riche splendeur de la diversité religieuse à travers le Moyen-Orient, afin que toutes les confessions religieuses à travers cette région puissent s'épanouir à nouveau dans leur pays de naissance, a déclaré le vice-président Pence.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.